10. L'aventure du beau trouvé. C'était, nous dit le comte, le plus bel enfant du monde et le mieux taillé de corps et de tous ses membres. Le comte ne doit pas oublier de faire son portrait, car il mérite d'être présenté devant toutes les personnes qui aimeraient entendre parler de la grande beauté d'un enfant. Anonyme. Dans le riche hospice de Gueff, s'accumulaient force méchefs. Ce prieuré de douces dames et son convent de pieuses femmes avaient longtemps été loués par tous les clergés du duché. Là, les rites conventuels et les secours spirituels offerts par la communauté se trouvaient tout tourneboulés. Depuis une date récente, une guigne des plus méchantes s'acharnait sur le sanctuaire et sur sa révérende mère. Un brochet avait dévoré toutes les tanches du vivier. Nuit après nuit étaient volés les plus gros œufs du poulailler. Des querelles entre novices éclataient pendant les offices. Des fioles étaient inverties dans l'apothicairerie. Quelques patients empoisonnés avaient bien failli trépasser. Le soupçon régnait entre sœurs et alimentait les rancœurs. Des religieuses s'accusaient, de vieilles amies se boudaient. Un jour, une importante aumône fut même dérobée aux nonnes, sans qu'on mît la main au collet de la coupable du forfait. La pauvre mère supérieure avait eu de meilleures heures. Sans cesse de nouveaux soucis, elle était accablée d'ennui. Chamaille, larcin, délation, malveillance et dégradation. On aurait cru que tout l'hospice glissait au bord du précipice. Mais au cœur de cette détresse, l'infortunée grande Mirès trouvait tendre consolation à gâter un petit garçon. C'était un touchant orphelin qu'avaient recueilli les nonains. Il avait chu devant leur porte avec la mine à demi morte. Les pieuses sœurs l'avaient soigné, nourri, logé et cajolé. Leur cœur s'était pris d'affection pour le pauvre petit lardon. Elles avaient donc décidé d'en faire un de leurs protégés. Comme il était vraiment mignon et qu'il ne portait pas de nom, les nonnes lui avaient donné le sobriquet de « Beau Trouvé ». Il avait perdu père et mère et traversé bien des misères à ce qu'il raconta en pleurs à ses moniales au grand cœur. Son dernier maître avait été un ramoneur déguenillé dont l'apprenti s'était tué en tombant d'un toit élevé. Lui succédant, le beau trouvé avait durement travaillé sous la férule du manant qui se montrait des plus violents. En dépit de son très jeune âge, l'enfant grimpait sur les faîtages et récurait les cheminées, dans la suie et dans les fumées. C'était tout juste si son maître lui donnait de quoi se repaître et récompensait son labeur par son lot de heures et malheurs. De plus, le triste personnage profitait de ses repérages dans les maisons de ses clients pour voir où se trouvait l'argent. Il ordonnait au beau trouvé, la nuit venue, d'y retourner, empruntant la voie aérienne pour dérober les bas de laine. Mais l'enfant jurait ses grands dieux qu'il avait le cœur vertueux et qu'il demeura innocent malgré les mauvais traitements. Le malhonnête rameneur fit seule carrière de voleur. Finalement pris par le guet, il eut encore le toupet d'accuser son souffre-douleur d'avoir été son crocheteur. Le beau trouvé prit donc la fuite, plutôt que d'attendre les suites d'un procès fort mal emmanché. 3 jours n'étaient pas écoulés qu'il apprenait à l'impromptu que l'odieux maître était pendu. Puis l'infortuné chérubin souffrit du froid et de la faim dans une pauvreté extrême. La faiblesse le rendait blême, la famine le décharnait et le désespoir l'accablait, quand par pitié la douce dame le guida vers les bonnes âmes de l'accueillant moutier de Gueff. Ce n'est qu'un résumé fort bref des pathétiques confidences que l'enfant faisait d'abondance. Il arriva une ou deux fois que le doute s'insinua dans l'esprit de la mère abbesse sur ses contes pleins de tristesse. Le bambin ne brodait-il point pour le seul plaisir d'être plein? Et n'était-il pas singulier que Rapines ait démêlé et brouillé la communauté peu après qu'il fût arrivé? Mais la Miresse charitable trouvait ses soupçons peu aimables chez un cœur ayant fait le vœu d'aider tous les nécessiteux. En outre, comment ce marmot eût-il fomenté tous les maux qui perturbaient le sanctuaire? Le malheureux ne pouvait guère être tenu pour responsable des discordes les plus coupables. Non, non. Un poupon si charmant, si pieux et si attendrissant n'avait point l'âme d'un menteur, d'un méchant drôle ou d'un voleur, et tandis que s'envenimaient les chamailleries et l'ivraie, seul l'enfant trouvait grâce aux yeux de tout ce cloître acrimonieux. Or, plus se délitait l'hospice en chicanes accusatrices, plus on s'arrachait les faveurs du joli petit enjôleur. L'enfant, furieusement gâté par ce gynécée déréglé, devenait capricieux et gras, et se comportait comme un roi. Il montrait tant d'autorité qu'on finit par se demander si ce penchant pour la puissance venait d'une haute naissance. Il se trouva incidemment que courait au même moment une rumeur d'enfant perdu. Le bon peuple avait entendu dire qu'une très haute dame, dans le but de sauver son âme et de racheter ses péchés, cherchait un fils abandonné. C'était une puissante veuve qui avait connu des épreuves après la mort de son mari. À présent qu'il avait péri, la dame, dans sa solitude, avait acquis la latitude de rechercher son héritier. Redoutant de faire jaser médisantes et beaux esprits, elle avait fait courir le bruit que cet enfant illégitime était le bâtard anonyme de feu son regretté époux. Mais on disait un peu partout le conte certainement faux, et que le mort avait bon dos, après avoir porté les cornes dans une existence bien morne. Sa jeune veuve délurée était couramment appelée la dame de la tour plaisante, car sa terre était attrayante. Elle avait certes traversé de réelles difficultés, après que par un grand malheur on eût pourfendu son seigneur. Son fief avait été hanté et failli être renommé la terre de la tour dolente. Mais la dame était si charmante qu'elle trouva un chevalier qui vint promptement délivrer son âme de tous ses remords et sa tour des mânes du mort. Ayant dès lors pu recouvrer une belle prospérité, la dame de la tour plaisante fit toutes affaires cessantes rechercher l'enfant disparu. La nouvelle avait donc couru à travers les bourgs et les fiefs jusqu'au sanctuaire de Gueff. Sitôt la doyenne avisée, son âme en fut bouleversée, car il lui parut assuré que le garçonnet recherché devait être le beau trouvé. Fallait-il donc s'en séparer? Lorsque l'idée fut soulevée devant les nonnes assemblées, elle provoqua grand scandale. Il y eut même des moniales qui proposèrent de cacher l'existence du beau trouvé. D'autres jugeaient que leur filleul n'était sans doute pas le seul enfant que l'on aurait pu prendre pour le petit garçon à rendre. Bien que la révérende mère fût bien tentée de laisser faire de pharisiennes manigances, elle eut toutefois la conscience de consulter le beau trouvé sur son mystérieux passé. D'abord, l'enfant ne se souvint, avoua-t-il, de presque rien. La prieure ayant insisté en allant jusqu'à évoquer la dame de la tour plaisante et sa seigneurie opulente, la mémoire du beau trouvé parut soudain se réveiller. « Il me revient de grands jardins percés d'allées de sable fin, » murmura-t-il d'un air songeur. Et marchant au milieu des fleurs, la grande dame merveilleuse à la beauté ensorceleuse. Cette bribe de vie enfuie, dite avec quelque nostalgie doublée d'une expression rêveuse, persuada la religieuse que le souvenir était vrai. Aussi, non sans d'amers regrets, la supérieure décida de se conformer à sa foi, et qu'il fallait rendre à sa mère l'enfant tiré de la misère. L'annonce de sa décision provoqua les protestations et doléances passionnées des religieuses dépitées. Mais malgré toute l'affliction et force récrimination, la supérieure demeura intraitable dans ce débat. Se défiant de ses propres nonnes, elle ramena en personne l'enfant vers le puissant repaire qu'occupait sa probable mère. L'abbesse et le petit enfant pérégrinèrent longuement à travers les bois et les landes des hautes terres d'Agurande. Cette chevauchée fatigante les mena à la tour plaisante. Les champs étaient bien labourés, le pays paraissait peuplé. Force manant aux alentours et un guetteur dessus la tour. Force sergent aux huisseries, force chevaux aux écuries. Une garde fournie escorte aux visiteurs depuis les portes, en écartant beaucoup de monde dans la cour aux murailles blondes. La prieure et le beau trouvé venaient à peine d'arriver lorsque parut une figure qui n'avait pas vilaine allure, penchée à sa haute fenêtre, posait le plus charmant des êtres. C'était une dame un peu pâle, mais d'une beauté sans égale, dont la nonchalante langueur avait fait battre plus d'un cœur. La dame de la tour plaisante se montra des plus avenantes. « Est-ce bien vous, mon bel enfant ? » s'enquit-elle d'un air touchant. Et le beau trouvé, ébaubi par la richesse du logis, ses tapisseries damassées, sa haute cheminée sculptée, se récria avec élan, « C'est bien moi, ma chère maman !» S'en suivirent des embrassades. D'attendrissantes roucoulades et de maternelles caresses entre l'une toute tendresse et l'autre toute adoration, si vive parut l'émotion qu'une larme vint à l'abbesse au spectacle de tant de liesses. La dame offrit un grand banquet à la nonne et au marmouset. Elle accorda également un riche don aux indigents soignés par les sœurs de l'hospice. Consolée par ce bénéfice, la supérieure consentit à céder le marmot chéri. Elle repartit tristement, en ne doutant pas un instant avoir fait une bonne action. Elle avait tout à fait raison, bien qu'elle ne se doutât point qu'en délaissant le galopin, elle rendrait sa sérénité à son sanctuaire apaisé. Sitôt la mère supérieure sur le chemin de sa demeure, la dame de la tour plaisante se dit soudain fort impatiente de présenter le beau trouvé à un mystérieux invité. Elle prit l'enfant par la main, en roucoulant d'un air câlin, « Bel ange, venez saluer quelqu'un qui veut vous rencontrer. » Elle le mena doucement en de nouveaux appartements où attendait le dos tourné un fort élégant chevalier. Le beau trouvé parut transi quand l'inconnu tourna vers lui la tête du bel églantier. « Te voici enfin capturé !» s'écria le preux triomphant en regardant de haut l'enfant. Celui-ci voulut détaler, mais la dame avait verrouillé la porte de ce logement qu'elle défendit fermement. « Tu ne pourras plus m'échapper !» se réjouit le bel églantier. « Je te tiens, maudit farfadet. C'en est fini de tes méfaits !» Le garnement épouvanté se mit alors à supplier. « Ah, maman chérie, gardez-moi du courroux de ce méchant-là, car il me déteste si fort qu'il risque de me faire un sort !» La dame, changeant de visage, lui rétorqua pleine de rage « Tais-toi donc, petit imposteur, car tu m'as fait le déshonneur de prétendre être mon bâtard, rendu à mes soins sur le tard. Tes mensonges me calomnient. Tu me paieras cette infamie. » L'enfant conçut si grande alarme qu'il en versa de grosses larmes. « Que dites-vous, maman chérie ? » geignit-il d'une voix marie. Cela ne fléchit point la dame qui lui répondit avec flamme « Cesse donc cette comédie, j'ai en horreur ta vilainie. Qu'ai-je à voir avec un vaurien ? Petit fourbe, tu ne m'es rien. Je n'ai point de fils hors mariage. Quant à ceux qu'un époux volage aurait pu avoir de putain, ils peuvent bien crever de faim. » L'enfant, tombant alors le masque, ne s'accrocha plus à ses basques. « Pourquoi m'avoir bien accueilli si à vos yeux je suis honni ? » demanda-t-il d'un air froissé. Pour l'agrément du chevalier qui m'a naguère délivré du spectre dont j'étais hanté. M'ayant sauvé de cette horreur, je lui devais bien la faveur de monter la trappe Nigo où tu es tombé comme un sot. L'air rusé, le bel églantier prit grand plaisir à préciser « Puisque sans cesse tu m'échappes, misérable petite gouape, il fallait jouer au plus fin afin de trouver le moyen de t'amener en mon pouvoir. Nous avons inventé cette oire du sire de la tour plaisante pour flatter ta mauvaise pente et te pousser à l'imposture en singeant la progéniture du puissant baron disparu. La convoitise t'a perdu. » Le beau trouvé dans un sanglot jura qu'il n'y comprenait mot.
« Mais c'est la mère supérieure qui a donné dans votre leurre, » larmoya-t-il d'un air chagrin. « Moi, je ne suis qu'un orphelin qu'elle a voulu persuader qu'il était un enfant bien né. »
Le chevalier fut courroucé par cette façon d'éluder. « Assez menti, petit gredin !» intima-t-il avec dédain. « À l'instant, tu m'as reconnu, tu es donc bien mon malotru. »
« Bien sûr, vous me faites trembler, sans cesse vous me pourchassez avec un cœur empli de haine. Je serai pourtant bien en peine de m'en expliquer la raison. Il doit y avoir confusion. Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait, je suis innocent pour de vrai. »
Le ton plaintif du plaidoyer assombrit le bel églantier. « Tu plaides contre l'évidence, car je reconnais ton engeance, » gronda-t-il d'un air menaçant. « Tu m'as nui il y a 15 ans. » Lorsqu'étions pages à la cour, tu m'as joué un affreux tour dont j'ai juré de me venger.
Comment, 15 ans, c'est insensé, je n'étais pas encore né.
Bien sûr que si, maudit mot-fée. Cela faisait déjà longtemps que tu contrefaisais l'enfant. Tu t'étais glissé par rouerie au milieu de la pagerie, y amusant la galerie avec force plaisanterie. C'est là que tu as convaincu mon petit frère Hurluberlu de monter un grand destrier encore assez mal débourré. Cette imprudente chevauchée s'est tragiquement terminée. Le cheval a désarçonné mon frère, puis l'a piétiné. Le pauvre petit inconscient en est demeuré impotent. Et l'on m'a rendu responsable de cet accident effroyable. Personne ne m'a écouté quand j'ai clamé la vérité et désigné le vrai coupable. La cour m'a jugé très blâmable de m'entêter à t'accuser dans le but de me disculper. Tout cela m'a tant révolté que j'ai fini par te frapper. Cette agression irréfléchie m'a enferré dans l'infamie. C'était comme si ma colère faisait de moi le mauvais frère qui, pour un tour de grand dadais, aurait pu tuer son cadet. Je fus très durement puni, et l'on m'a aussi interdit de visiter mon petit frère qui frôlait son heure dernière. Or, quelques semaines plus tard, comme j'étais mise à l'écart, voici que tu as disparu. On s'était enfin aperçu que tu ne servais nul seigneur. Furent adoucies les rigueurs des sanctions dont j'étais frappé. Quant à mon frère, sa santé ne s'emporta pas vraiment mieux, et j'étais toujours si furieux que je me suis fait le serment de t'en donner le châtiment. Fuir les jours et les saisons sans user ma résolution. Sitôt chaussé les éperons, enfin libre de mes actions, je me suis lancé sur tes traces dans une interminable chasse. Ce fut ainsi, les ans passant, en te recherchant patiemment, que j'ai fini par découvrir que tu ne semblais pas grandir. Tu restais indéfiniment dans le corps d'un petit enfant. J'ai dû me rendre à l'évidence, sous la puérile apparence de ce turbulent plaisantin, sévissait un esprit malin, dont les tours et les duperies rivalisaient de rosserie. Avoue, tu n'es qu'un changelin, et puisque je te tiens enfin, il est plus que temps de payer pour toutes tes iniquités. Pendant ce discours orageux, le beau trouvé cherchait des yeux quelque issue par où échapper au courroux du bel églantier. Mais la dame gardait la porte et son ami faisait en sorte d'entraver toute tentative de dérobade intempestive vers les fenêtres et cheminées. Toute retraite était coupée. Bizarrement, le beau trouvé ne se montrait plus éploré, mais s'écria avec colère « Eh quoi, qu'allez-vous donc me faire ? M'enfermer, me battre, me pendre, me tourmenter ou me pourfendre? Noble justice que voilà, on admirera votre exploit. Est-il un haut fait plus vaillant que de se venger d'un enfant? Enfant, tu ne l'es nullement, Je vois un follet malveillant. Je suis petit depuis longtemps, mais n'en reste pas moins enfant. J'étais un garçon très normal, jusqu'à ce qu'on m'ait fait du mal. J'ai d'abord été enlevé, puis on m'a ensorcelé pour m'interdire de grandir et suspendre mon avenir. Enfant je suis et je serai. Enfant à jamais resterai, par le caprice d'une fée que j'ai jadis indisposée. Jouir de cette enfance sans fin est un sortilège inhumain. Jamais je ne deviendrai grand. Jamais ne serai important. Jamais n'accomplirai mes rêves. Jamais ne serai la relève. Je suis l'éternel galopin dont la vie n'a pas plus de fin qu'elle n'a de destination. Je suis privé de protection car je survis à mes tuteurs. Quoi qu'il en soit, si par malheur je reste longtemps sous un toit, fatalement on s'aperçoit que ne grandit ni ne vieillit. Suspect d'être un mauvais esprit, il me faut vite disparaître avant qu'on ne pense à commettre l'irréparable contre moi. Plutôt que souffrir cet effroi, je niche d'asile en asile, sans être jamais très tranquille, à la merci des gens méchants, des luxurieux et des violents. Pour échapper à ces gredins, il me faut bien être malin, et pour dissiper la tristesse de ma vie pleine de détresse, je m'amuse à jouer des tours, je fais des farces tous les jours, mais chacune de mes folies est fruit de ma mélancolie. Suis-je un trublion turbulent? Comment survivrai-je autrement? Et comment pourrait s'assagir un enfant qui ne peut grandir? Ces mots dits avec véhémence éveillèrent plus la clémence de la dame et du chevalier que les pleurs ayant précédé. S'il était une part de vrai dans le discours du farfadet, ceux qui l'avaient induit au crime en faisaient aussi la victime. Cependant, le bel églantier craignait de se faire duper. Il doutait, la mine sceptique, de cette belle rhétorique et répondit d'un air défiant « Voici de touchants arguments, mais comment accorder valeur aux billevesées d'un menteur ?»«
Sur la tête de votre frère, je jure que je suis sincère. »
Ce serment plutôt incongru se trouvant fraîchement reçu, le petit drôle se saisit de la manche de son habit et d'un seul coup la retroussa pour découvrir son avant-bras. À son poignet était noué un ruban un peu élimé, mais de beauté si singulière qu'il en sortait de l'ordinaire.
« Voyez cette ganse brodée, c'est un ouvrage de la fée !»
L'étoffe était si satinée, ses guipures si raffinées, que la dame et le chevalier en furent des plus étonnés. Le bel églantier s'écria « Où as-tu donc volé cela ?» Car fasciné par la richesse de ce chef-d'œuvre de finesse, le voleur l'intéressait moins que l'origine du butin.
« Or ça, je ne l'ai point volé !» se rebella le beau trouvé. « Je l'ai gagné grâce à mes tours, dans les épreuves d'un concours pour devenir le favori d'une belle fée sans merci. » Mais la dame m'a dédaigné et injustement renvoyé quelque temps après ma victoire. Pour ajouter à mes déboires, m'imputant je ne sais quel tort, elle m'a frappé de ce sort qui m'a empêché de grandir et incité à mal agir. Si vous cherchez la vraie coupable de mes farces les plus blâmables, c'est cette fée qu'il faut châtier et non l'enfant ensorcelé.
Le chevalier, fort circonspect, fit la remarque au farfadet qu'un conte si extravagant sentait un peu son boniment. D'un air froissé, le beau trouvé répliqua qu'il saurait prouver l'existence de sa sorcière.
« On l'appelle la Lissandière, et si vous êtes courageux, je puis vous mener jusqu'au lieu où elle trame sa magie. Une fois votre âme éblouie par la force de ses chimères, vous verrez que je suis sincère dans le récit de mes misères et que je ne mérite guère d'être pris pour seul responsable de ces facéties discutables. »
La dame de la tour plaisante restait toutefois réticente à accorder quelque crédit à des propos si inouïs. Montrant des signes d'impatience, elle dit « Fouettez d'importance ce vil phénomène de foire pour mettre un terme à ces histoires. » Le bel églantier, quant à lui, évoluait dans ses avis. Avant d'exercer sa vengeance, il voulait avoir l'assurance de châtier la source du vice, non de commettre une injustice. Il finit donc par signifier « Eh bien, nous allons vérifier si tu parles de bonne foi. Tu vas cheminer avec moi jusqu'au domaine de la fée. Lorsque nous l'aurons salué, je m'enquérerai de sa version pour me forger une opinion. » Révèle-nous pour commencer où cette fée peut bien loger. Le petit coquin murmura non sans un sourire narquois. Il faut parcourir bien des lieux jusqu'aux orées des futaies bleues. À la mention de ce pays, la dame poussa les hauts cris.
Quoi? N'y allez point, c'est folie. Ne sentez-vous la perfidie? Ce drôle ourdit une traîtrise au beau milieu des landes grises.
Mais le périple et ses dangers séduisirent le chevalier, car pouvait y être gagnée une meilleure renommée que la réputation douteuse d'user de ruses cauteleuses. Aussi, ayant pris son parti, le bel églantier répondit « N'ayez crainte ni souci, dame. Je compte sur ma bonne lame pour me garder des estafiers et des tours de mon prisonnier. Nous franchirons les gastes terres pour confronter la Lysandière, et quand j'aurai tout débrouillé, je jure que je reviendrai dans le seul dessein de vous plaire en comptant la fin de l'affaire.